La chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, le prix des libraires du Québec, ça s'en vient. En fait, le gala sera présenté le 29 mai et vous nous parlez d'un roman en lice au prix des libraires du Québec.
Oui, parce que parmi les 5-6 finalistes, bon, j'ai déjà parlé de Amiante, de Sébastien Dulude chez La Peuplade, qui est finaliste à peu près 15 prix. Là, c'est vraiment un roman qui a été une grande découverte pour plusieurs. Et j'aime toujours lire les titres que les libraires proposent parce que les libraires sont sans doute les personnes les plus au courant des parutions qui sortent en quantité innombrable et puis qui nous proposent souvent des choix de lecture pertinents. Alors moi, j'ai lu Exa. C'est un roman de Gabrielle Filto-Chiba. Et puis, elle avait écrit déjà une trilogie qui se passait dans la région de Kamouraska. Il y avait d'abord Encabané, Sauvagine, puis Bivouac. Et ces histoires-là parlaient finalement d'une femme qui se retire de la ville très jeune et qui s'en va vivre dans une cabane. C'est le mot, là, parce que c'est pas isolé, puis il n'y a rien, il n'y a pas d'eau courante. Et puis, elle va vivre un hiver très difficile là-bas et elle va finalement être en contact avec la nature et va trouver un sens en voulant s'intégrer dans un groupe d'activistes qui veulent sauver une rivière. Enfin, bon, alors l'activisme et puis la sensibilisation à l'environnement à travers ces textes-là, c'est un peu son œuvre, défendre la nature. Elle a ensuite publié de la poésie et un autre roman qui y est à paraître. Mais Exa, c'est un gros roman de 311 pages qui parle d'une société imaginaire, c'est une dystopie, donc on est dans le futur, dans la région de Québec, Sainte-Foy, Sillery, qui est devenue une espèce de ville ceinturée de 5 clôtures de barbelés, un mur, les gens y ont des puces sous-cutanées, ils ont des codes-barres pour sortir. En tout cas, bref, c'est pas la vie rêvée, mais c'est une vie imaginaire dans le futur qui est quand même pas tout à fait si loin de certaines choses qu'on prévoit. Et dans cette histoire-là, la première partie, parce que c'est divisé en trois parties différentes, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Tali et qui parle au jeu. Ses parents, Sandrine et Gabriel, vivent dans cette espèce de cité très désagréable. Mais chaque année, dès que vient le beau temps, sa maman, Sandrine, s'en va vers le nord et elle va là reboiser avec un groupe de femmes. Donc, dans cette dystopie, il est question de ce qu'on appelle les romans de la nature. Donc, comment cette jeune fille, Tali, va se sortir de là? Parce que depuis sa naissance, les parents vont tout faire pour lui préparer un avenir meilleur que celui qu'on a. Alors, faut pas se tromper, on n'est pas avec des robots, puis un monde sombre où il n'y a rien à voir, tout est noir. C'est un roman qui sensibilise au danger dans lequel on se trouve présentement, où ça pourrait déraper, et qui propose beaucoup de modes de vie différents.
De solutions.
Oui, puis il y a de la lumière. C'est toujours dans l'amour, la bienveillance, l'entraide.
On n'est pas dans la morale.
Non, pas du tout. Jamais on ne juge pas. Alors, la première partie, ça s'appelle les pionnières. La deuxième, les nourrices. Et la troisième, les semeurs. La principale partie, c'est vraiment celle du centre. Là. Alors donc, comment c'est construit? C'est qu'il y a des chapitres dans la première partie racontés par Tali qui va finalement quitter son monde difficile pour aller vivre avec sa mère dans la forêt là-bas à reboiser. Là. C'est une espèce de forêt tout à fait naturelle parce que le gouvernement leur donne des petits résineux à planter, mais ça, c'est pas bon. Alors, eux autres, ils vont plutôt trouver des semences ancestrales et semer quelque chose qui va rester, quelque chose qui donne des fruits. Bref, ils vont faire un reboisement écologique et responsable. Elle, pour qu'elle vienne avec sa mère et qu'elle accepte d'y aller, ben ils vont lui dire qu'elle fait un stage et elle doit remplir des formulaires. Puis finalement, c'est pas ça du tout qu'elle va faire là-bas. Les formulaires, elle n'a pas envie de remplir ça. Personne ne veut entendre parler. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand elle arrive là-bas, il y a un certain nombre de femmes qui travaillent reboisées, puis il y a aussi un certain nombre d'hommes. Et ils ont là-bas aménagé une vie agréable et certains ne reviennent plus jamais du côté de la cité et restent là toujours. Donc, elle va apprendre à vivre avec ces gens-là. Et ça, c'est très documenté parce que l'autrice a lu beaucoup et on sent que quand elle nous parle des plantes, elle sait de quoi elle parle. Quand elle nous parle des papillons, des insectes, des oiseaux, des animaux, c'est pas inventé. Et il y a quelque chose qui tient du conte parce que dans cette forêt qui sont à construire, dans ce monde-là qui est au nord du 51e parallèle, bien, il y a comme de la magie, il y a des personnages qu'on appelle presque des fées ou des sorcières. Et puis, bon, dans la deuxième partie, qui s'appelle les nourrices, ben là, on revient au début de l'histoire linéaire où le couple Gabriel et Sandrine se sont rencontrés, ont un enfant, et on va aller jusqu'à aujourd'hui quand on a quitté la première partie. Donc, c'est un recul dans le passé pour mieux comprendre le présent. Et la troisième partie, ben, c'est quand finalement la stratégie organisée par les parents va se dérouler. Je ne dis pas tout parce que c'est un travail minutieux sur plusieurs années que les parents ont orchestré pour sauver leur fille de cette vie sombre et difficile qu'elle aurait vécue si elle était restée dans la cité. Donc, c'est le fun parce que Thalie, c'est une adolescente qui a vécu dans une enfance où elle était finalement éduquée par toutes sortes de choses virtuelles dans un monde fermé. Et là, elle va s'ouvrir, elle va découvrir la vie, la forêt, la solidarité féminine, la sororité, et va redécouvrir l'amour dans un monde qui est fait sur, comment je dirais ça, la solidarité et l'amitié de ces femmes-là. Alors, elle va apprendre beaucoup, et ces femmes-là qui sont là, on les a vues, on les voit plus tard dans l'autre chapitre. Donc, ça a l'air compliqué, mais ça n'est pas du tout là. Ça nous tient en haleine. Il y a un suspense parce qu'il arrive un incident, puis on se demande comment ça va se terminer, puis c'est à la toute fin qu'on comprend comment ça se passe. Et l'autrice, à travers tout ça, évidemment, donne un peu des messages de « faites attention à ce que vous semez, faites attention aux feux de forêt, faites attention à la vie, l'emprise de la technologie sur nos vies et tout ça. » Et le mot « hexa », ça fait penser à 6, hexagone, mais c'est aussi le mot « sorcière » en allemand. Donc, ces femmes-là, c'est un récit féministe. En fait, dans cette espèce d'univers inventé, ces femmes-là connaissent des secrets de la nature, comme les sorcières le savaient. Et les fées sont des femmes qui sont bienveillantes auprès des enfants. Ben, c'est ça qu'elles sont pour elle qui va arriver et les autres plus tard. C'est une écriture très poétique et avec un vocabulaire très riche parce qu'on sent que l'autrice maîtrise vraiment ce dont elle parle. Puis malgré la gravité de tout ça, c'est un livre plein d'espoir qui est influencé par les récits de Thoreau ou Margaret Atwood. Et puis bon, ben aussi l'urgence d'agir. Je vous donne un exemple. La mère va dire à sa fille, planter des arbres, ma fille, c'est une drogue dure. C'est euphorisant. Tu vas voir comment on se sent bien quand on met toute son énergie au service du vivant. Et vivant avec un V majuscule. Puis là, ben justement, elle va aider sa mère. Au début, elle va l'assister parce qu'elles ont un certain nombre d'arbres à planter à chaque jour. Puis ensuite, il y a la place du livre qui est très importante parce que les livres sont faits avec du papier, donc avec des arbres. Et puis aussi parce que les livres sont interdits dans la cité. Maintenant, on va tout dans le numérique, puis on trouve que la lecture, c'est comme un temps perdu. Alors, ses parents ont toujours gardé des livres cachés sous les matelas, dans des sacs, pour que cet enfant-là soit finalement capable quand même de s'émerveiller devant la lecture. Et il y a des allusions à des auteurs et des autrices tout au long du texte, à des textes même aussi. Exemple, Miranda, qui est une personne dans cette espèce de petit village, va dire « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle dit ça à la petite, mais on comprend que c'est une citation de Simone de Beauvoir. Donc, il n'y a rien qui est innocent dans cette histoire-là. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont gardé, installé dans un conteneur bien caché des livres qui ont échappé à l'incinérateur. Ça m'a fait penser à Fahrenheit 450, je pense que c'était ça, où on brûlait les livres et les gens essayaient de les mémoriser. Ben, oui. Ici, il y a une bibliothèque clandestine. Et là, ben, elle va lui prêter des livres à la petite qui va finalement plonger là-dedans. Et c'est comme si, en plus de sauver la nature, de sauver les espèces rares et menacées, elle sauvait la littérature, la culture.
Avez-vous dit Fahrenheit 450?
C'est ça, hein?
Non, c'est 451.
451, bon.
Un roman de Ray Bradbury.
Voilà, c'est ça.
Oui, il y avait aussi Les combustibles, me semble, de... Comment ça s'appelait?
Oui, peut-être. Mais c'est comme si, finalement, les gens dans cette cité-là, on leur empêchait de s'instruire sur certains sujets aussi. Donc, ouais. En cachant ces livres-là, ce qu'ils font, les parents, c'est qu'ils cachent dans l'entremur entre leur chambre et placard, je ne sais pas trop.
Les combustibles, c'est une pièce d'Amélie Nothomb, là, où on brûlait des livres.
C'est ça.
Oui, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Je me souviens, je l'avais vue, ça fait très longtemps.
On sent qu'elle a donc lu ça, elle a été inspirée par ça, puis comme elle est une autrice, elle est sensible au fait que, oui, les forêts sont menacées, puis oui, on imprime des livres sur du papier, donc c'est comme un cercle, son histoire.
Ouais.
Mais ces personnages sont attachants, ils sont beaux, ils sont rebelles, mais en même temps, ils tuent pas, là. C'est pas avec des armes qu'ils font ça, c'est dans l'action. Et ça propose finalement de quitter ce monde-là de la consommation à outrance pour finalement vivre autrement, protéger la nature en développant un nouveau mode de vie et en étant des acteurs de ce changement. Alors, ça va avec tout ce qui est dans l'air et je pense que avec tout le reste de ce qu'elle a publié. J'ai quand même lu au début sa trilogie que j'ai adorée. Alors, c'est une lecture que je propose et que je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens et surtout aux féministes, je pense, parce qu'il y a quand même un propos derrière ça qui est susceptible de les intéresser.
La compétition est forte, en tout cas, hein, en ce qui concerne le prix des libraires, là, Amiante, Sébastien Dulude, L'irréparable Pierre Samson, Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme par Michel Lapierre Dallaire, Peuple de verre, Catherine Leroux, et puis le livre dont vous venez de nous parler, Exa ou Exa.
Exa.
Exactement.
Un autre sûrement pour la semaine prochaine, jusqu'à temps qu'on connaisse le titre lauréat.
Parfait. Alors, je voulais pas induire les gens en erreur, là, en faisant le jeu de mots exactement. Le titre s'écrit H majuscule E-X-A et c'est Gabrielle Filteau-Chiba. Anne-Marie l'a lu pour nous. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Au revoir, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.